Je dois effectivement vous parler de ce thème propriété intellectuelle et nouvelles technologies avec ce qui m'est apparu un sous-titre opportun à la recherche d'un nouveau paradigme et vous verrez pourquoi. Propriété intellectuelle et nouvelles technologies, si j'adoptais le style du canard enchaîné, je dirais que c'est de l'ordre des apparentements terribles. Parce que ces nouvelles technologies, j'ai respecté l'intitulé, vous noterez au passage le bel anglicisme qu'il y a là et la figure de style convenue, ces nouvelles technologies sont celles de l'information et de la communication, autrement dit, peut-être de manière plus médiatique, de l'informatique et de l'Internet, c'est-à-dire deux univers qui, en quelques décennies, ont bousculé notre appréhension technicienne du monde, d'abord, notre vie quotidienne, ensuite, nos schémas de pensée, enfin, au point qu'il est convenu de parler de société post-industrielle ou de société de l'information, peut-être d'ailleurs sans toujours l'esprit critique souhaitable. Cette information est donc le soubassement de ces techniques que le droit va être amené à appréhender. Je dois faire une observation, c'est que cette information est présente dans d'autres créations, dans d'autres domaines, et avec un même effet déstabilisant pour le droit des propriétés intellectuelles. Je vous donne un seul exemple, la question de la brevetabilité des séquences génétiques, qui sont bien une séquence d'informations et qui posent, vous le savez, également de redoutables problèmes. Pour rester néanmoins sur le thème général qui a été rappelé il y a quelques instants, technologie de l'information et de la communication stricto sensu, je me bornerai à cet aspect des choses, essayant d'examiner avec vous comment se traduit cette confrontation entre ces technologies et les propriétés intellectuelles. Car, il faut le préciser, il y a toutes sortes de propriétés intellectuelles. Celles que vous connaissez bien, même si vous n'êtes pas des spécialistes, comme le droit des brevets ou le droit d'auteur, mais aussi des propriétés plus inattendues, droit sur les obtentions végétales, sur les topographies de semi-conducteurs. Je ne vais pas m'amuser à une analyse systématique qui serait sans intérêt. J'essaierai de voir là où il y a véritablement une confrontation qui appelle une remise en cause, une réflexion originale. Voilà pourquoi je dirai un mot de la marque et du brevet, mais je m'arrêterai véritablement aux droits d'auteur et à ce que l'on peut appeler les droits apparentés, car ce sont ces droits-là qui sont véritablement au cœur d'une réflexion novatrice. Les marques. Les marques ont fait beaucoup parler d'elles dans leur confrontation avec ces noms de domaines qui sont, vous le savez, un élément clé de la navigation sur l'Internet, puisque c'est à travers les noms de domaines que l'on pourra retrouver un site, une adresse, un lieu virtuel. Et la question se pose aux juristes de savoir quelle place assigner à la marque, quelle place assigner au nom de domaine, se pose de savoir si ce nom de domaine doit être considéré comme une simple adresse ou s'il faut y voir un véritable identifiant à valeur juridique, comme la marque l'est déjà, mais comme le sont aussi, par exemple, le nom commercial ou l'enseigne. À dire vrai, nous en sommes aux premières réflexions. Je me bornerai simplement à observer que la fonction du droit est souvent de gérer la rareté et que l'on peut se demander si ici le droit d'une certaine manière ne fabrique pas, avec l'aide des techniciens, la rareté. Je renvoie à cet article assez provocant mais très intéressant de Laurent Chemla, Confession d'un voleur, paru dans Le Monde au mois d'avril de cette année-ci. Avec le brevet, c'est plus directement une question d'adaptation d'un droit qui avait été pensé au XVIIIe pour la mécanique que nous nous voyons confrontés. En effet, le brevet est un droit qui est apparu pour l'essentiel, cela dépend évidemment des pays, au XVIIIe, avec un arrière-plan, l'idée de la machine animée de rouages, comme l'horloge servant à Voltaire à fonder son grand horloger. Et voici que soudainement, l'information, avec le logiciel, devient l'âme de la technique, alors que, selon le sens commun, information et technique sont deux choses différentes. Et comme le sens commun fait des ravages même au sein de l'Office européen des brevets à Munich, on s'aperçoit que l'essentiel n'est pas tellement de savoir ce que l'on présente comme dossier, mais de savoir quel mot utiliser. Et surtout, ne pas utiliser le terme « information » puisque le nominalisme triomphe. Pourtant, il y a peu de mots plus polysémiques que le mot « information ». Et je crois qu'ont raison ceux qui disent qu'aujourd'hui, la machine peut être virtuelle et que l'on peut très bien, par le détour des bits, obtenir ce qui naguère passait par des roulements à billes ou des roues dentées. Il est vrai que si la convention dite sur le brevet européen de Munich de 1973 interdit la prise de brevets sur des programmes d'ordinateurs, dans la mesure où l'Office européen vit de la délivrance des brevets, cela n'interdit pas que de tels titres soient délivrés dans un grand bricolage que la doctrine viendra plus ou moins doter de rationalité. Il est vrai aussi que sous une forte pression américaine, la question n'est peut-être plus déjà de savoir si un logiciel ou un moteur de recherche est brevetable, car sous cette pression, nous assistons à un changement de standard en matière de brevets, qui est de moins en moins un droit conçu pour l'industriel, mais dont on voudrait nous faire admettre qu'il est conçu pour toute création utile. Je vous laisse à imaginer ce que cela peut recouvrir dès l'instant où la référence à l'utilité est la plus vague référence que l'on puisse imaginer. Mais je sortirai du sujet si je m'étendais là-dessus. Alors, impérialisme pour impérialisme, c'est vers le droit d'auteur et ce que j'ai appelé les droits apparentés, c'est-à-dire les droits dits voisins, je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure, mais aussi toutes sortes de droits dans la mouvance du droit d'auteur, que je vais véritablement m'arrêter. C'est là, en effet, comme je le disais tout à l'heure, que la confrontation conduit aux remises en cause les plus radicales et donc les plus intéressantes aussi. Car le droit d'auteur, à la charnière de ces deux millénaires, est bien éloigné de celui dont Beaumarchais, puis Hugo, s'étaient fait les promoteurs. Qu'il s'agisse du droit d'auteur proprement dit, c'est-à-dire de celui que connaissent les pays de l'Europe continentale, l'Amérique latine, bien des pays arabes, les pays de l'Afrique noire francophone, ou du copyright anglo-saxon, qui n'est ni tout à fait semblable, ni tout à fait un autre, la brèche est apparue avec l'idée que le droit d'auteur ou le copyright appréhendait des formes littéraires, musicales, plastiques, comme vous voudrez, sans doute, mais des formes. Or, tout est forme. Il n'y a pas de produit de l'esprit humain qui soit informe. Mais à ce compte-là, vous le pressentez, le droit d'auteur est partout, et il l'est d'autant plus que, selon un mot que j'affectionne, l'immatériel, qui est le produit de l'esprit, est partout. Dès lors, technologie de l'information et de la communication, immatériel, information, droit d'auteur, voilà qui va se conjuguer en un mélange étonnant et détonnant, et obligé à de sévères révisions. Ce sont des créations nouvelles qui surgissent, logiciels, bases de données, multimédia. De vieilles créations sont revisitées, comme diraient les anglo-saxons, musique ou images numérisées par exemple. De nouveaux instruments sont disponibles, synthétiseurs, qui est un vieux, nouvel instrument, ou logiciels de création assistée. De nouveaux modes de création se font jour. Sampling ou animation 3D, pour ne citer que cela. Le vieux droit est-il donc caduc ? Certains l'affirment et il est certain que l'on est toujours un meilleur gourou quand on prophétise l'Apocalypse. Et c'est pourquoi on peut lire sous la plume de John P. Barlow, fondateur de l'Electronic Frontier Foundation, « Everything you always knew about intellectual property is wrong. » Tout ce que vous avez jamais su sur la propriété intellectuelle est désormais faux. Peut-être. Mais il y a à l'opposé les tenants d'un droit marmoréen pour qui les nouvelles technologies ne sont que péripéties et qui restent et doivent rester, à moins que ce soit l'inverse, doivent rester et restent intactes à travers vents et marées, coups de boutoir logiciels et bourrasques des réseaux. Comme souvent, la réalité se trouve entre les deux extrêmes. Avec le surgissement des biens informationnels dans le champ du droit, c'est à une autre perception du droit d'auteur que nous sommes invités. Ce sera le premier point auquel je m'arrêterai. Le triomphe de la logique marchande, deuxième point, va alors de pair avec ce que l'on pourrait appeler le spectre de la mondialisation, troisième point. On ne s'étonnera pas alors que surgissent des antagonismes forts, ce sera mon quatrième point, et si l'on ne veut pas se satisfaire de certaines considérations de simple cuisine, même juridique, il faudra peut-être alors se demander s'il ne faut pas se tourner vers d'autres paradigmes, ce sera là mon cinquième et dernier point. La montée en force de l'information comme valeur. C'est bien là le premier point qu'il faut observer. Avec le passage de ces œuvres que sont le poème ou la statue à ces nouvelles créations que sont logiciels, bases de données, multimédia que j'ai déjà évoqué, mais aussi pages web ou liens hypertextes, ce n'est pas un simple élargissement du champ de la matière que nous avons assisté. L'objet de droit tel que saisi désormais par le droit d'auteur et ses droits apparentés, a acquis en effet une profonde ambiguïté. On a commencé à parler de biens informationnels avec les logiciels. Il est couramment question aujourd'hui d'œuvres informationnelles. Et pourtant, les puristes du droit d'auteur vous rappelleront avec raison que si le droit d'auteur ne se limite pas aux beaux-arts, il saisit et il ne saisit que la forme d'une œuvre et rien d'autre. La mise en forme et point le contenu, point le message, si message il y a, point l'information. Hélène peut fuir son foie avec Paris, voilà qui est du domaine public, en tout cas pour qui n'a pas oublié ses classiques, mais c'est au seul Giraudoux qu'appartient cet or gris de la paix qui s'enfuit irrémédiablement. Quant à la théorie de la relativité, elle n'est pas comme telle protégeable, mais le petit opuscule du même nom publié par Einstein est protégé par droit d'auteur. Mais quand l'objet appréhendé par le droit n'est qu'un ensemble informationnel, comme l'est par exemple une base de données, il est bien difficile de faire admettre que le droit se désintéresse de l'information. L'observation vaut à l'évidence aussi pour le logiciel. Logiciel qui est de l'information traitée, qui traite de l'information. Et cette confusion explique, selon moi, pour une part, je ne suis pas naïf, pour une part seulement, les incompréhensions qui existent entre éditeurs de presse et journalistes quant au fait de savoir si les premiers dispose du droit de mettre en ligne pour une édition électronique du journal les articles des seconds. Il y a des questions d'intérêt, il y a de multiples aspects, des choses dont nous avons tous conscience. Mais il faut observer que sous forme papier ou sous forme électronique, un journal reste pour l'essentiel la même source d'information. En revanche, si vous le considérez dans sa présentation, dans sa mise en page, dans sa conception, linéaire en un cas, quand il s'agit de papier, hypertextuel dans l'autre, quand il s'agit d'électronique. Quand vous considérez donc la forme, ce sont bien de deux œuvres distinctes qu'il s'agit. L'éditeur soulignera qu'il n'y a qu'une information, l'auteur fera valoir qu'il y a deux œuvres. Ce surgissement de l'information comme valeur propre à prendre en compte a suscité ainsi de nouveaux aménagements des droits existants, voire de nouveaux droits. Cet exemple de la première figure, la reconnaissance à propos des logiciels d'un droit de décompilation. C'est un terme un peu barbare. Cette décompilation permet à certaines conditions et dans le but précis d'assurer l'interopérabilité entre programmes, d'accéder au code source d'un logiciel protégé. Mais que diable cela pourrait-il signifier si nous considérions des œuvres comme celles de Faulkner ou de Thomas Mann? Rapprochement incongru, me direz-vous, mais si je me le suis permis, c'est que tout simplement aux États-Unis comme en Europe, le droit nous dit que les logiciels sont des œuvres littéraires. Exemple de nouveau droit. Ce droit sui generis, spécifique sur les bases de données, instauré voici quelques années, au profit des producteurs de bases de données, et que je ne fais ici qu'évoquer, puisque je reviendrai dessus dans quelques instants. Mais surtout, le surgissement de l'information comme valeur propre est source de nouvelles approches. On peut fabriquer la côte d'un peintre, nous le savons tous. Ceux qui s'intéressent au marché de l'art depuis quelques décennies savent que ce n'est pas une hypothèse d'école. Avec le cinéma, qui est d'ailleurs de plus en plus numérique aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'industrie culturelle. L'expression est assez parlante. Mais avec l'information comme valeur, on est de plein pied dans une logique de marché. Et il est évident qu'un droit pensé dans la contemplation du marché ne peut pas être le même droit que celui conçu pour des œuvres qui peuvent éventuellement, pour le meilleur ou pour le pire, être précipitées dans le marché. C'est au triomphe de la logique marchande que nous assistons, second point que je veux développer. À dire vrai, et quoique les Français n'aiment pas trop s'apesantir sur cet aspect des choses, sans doute jugé trop trivial, cette logique n'a jamais été absente du droit d'auteur. Lorsque Beaumarchais revendiquait un droit d'auteur, c'était dans l'idée de pouvoir vivre de sa plume. Et voici quelques années, l'un de nos plus grands réalisateurs de télévision, de la grande télévision des années 60, disait lors d'un débat que j'animais au Centre Pompidou, dans une manière plus simple, plus brutale, que l'ambition première des réalisateurs était très simple, qu'ils espéraient pouvoir manger. Alors, chose peut-être un peu triviale, cette logique a toujours été présente, mais cette logique aujourd'hui devient dominante. Et elle devient dominante au sein même du droit d'auteur et de ses droits apparentés, pour qui la dimension économique n'était pas la dimension première, à la différence du brevet ou de la marque, qui ont toujours été des droits marchands. Cette logique marchande devient un élément de justification pour une protection étendue à ceci ou à cela. Il y a investissement, dit-on, il doit y avoir protection. On a entendu l'argument il y a quelques années pour les bases de données. Et il est tout à fait intéressant de relever que ceux qui avançaient la thèse à l'époque le faisaient avec les arguments de ceux qui, au XVIIIe, plaidaient pour les libraires, et je vous rappelle que dans le langage du XVIIIe, les libraires sont les éditeurs, en un temps où ces libraires essayaient d'obtenir des droits au lieu et place des auteurs. Le savait-il, ne le savait-il pas, la convergence est en tout cas intéressante. Car il faut encore noter que cette logique marchande triomphante sert aussi de plus en plus d'éléments de référence. Il faut savoir que le droit d'auteur, Mais le droit d'auteur, stricto sensu, par opposition au copyright, est fondamentalement un droit des auteurs. Mais la logique à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés est d'abord une logique de l'investissement, qui par le fait même conduit souvent à se désintéresser de la création et ne considère plus en tout cas fondamentalement la création dans son lien avec l'auteur. La condition traditionnellement posée dans notre droit pour qu'une œuvre soit protégée est une condition d'originalité. Et pour faire simple, j'ai l'habitude de dire que lorsque Flaubert dit « Madame Bovary, c'est moi », il exprime au fond la philosophie du droit d'auteur. Madame Bovary, l'ouvrage est protégé parce que c'est Flaubert. Nous sommes très loin de cela aujourd'hui, et d'abord avec les logiciels, ensuite avec les bases de données, on s'est satisfait, et ce n'est pas d'ailleurs forcément critiquable, de la présence d'un apport intellectuel dans la création. Mais alors, sauf à imaginer un créateur totalement dépourvu de créativité, hypothèse intéressante. On comprend bien que toute forme de création, toute forme d'œuvre, puisque c'est le mot convenu, peuvent accéder à la protection, y compris les plus plates qui soient. Il faut quand même beaucoup de complaisance pour considérer comme une œuvre, une compilation, ou bien la plus banale des pages d'accueil web. Pourtant, il y a dans les deux cas un investissement fort, s'agissant évidemment de la première hypothèse, variable dans le second, mais un investissement. Il ne faut pas s'étonner donc de voir simultanément l'investisseur objet d'une sollicitude qui va, dans le même temps, beaucoup moins aux auteurs. Deux exemples seulement. Je disais il y a un instant que dans notre tradition, le droit d'auteur était véritablement le droit des auteurs, avec une règle qui demeure dans notre code, qui est que lorsque l'auteur est un salarié, c'est encore à lui, bien que salarié, que les droits reviennent. Mais cette règle n'est plus vraie s'agissant de logiciels. Et on voit aujourd'hui, avec toute l'interrogation sur la mise en ligne de création multimédia, la question posée de savoir s'il ne faudrait pas revenir sur cette règle. Réflexion aussi sur la force à reconnaître au droit moral de l'auteur, dont un des aspects est le droit au respect dû à l'œuvre. Dès l'instant, en effet, où la pratique des réseaux, l'hypertextualité, l'interactivité obligent en raison à admettre une certaine mobilité de l'œuvre, il est difficile d'opposer à cela je ne sais quelle vision de l'œuvre intangible. Si je dis en raison, c'est que je crois que cette évolution est raisonnable. Mais il ne faut pas être dupe. Si cette mobilité est de la substance, par exemple, du cyber-art, il est clair que ce sont les investisseurs qui demandent à pouvoir disposer aussi librement que possible des œuvres qu'ils vont mettre en ligne. Et je vous rappelle qu'une page web est potentiellement à la fois une œuvre et un complexe d'œuvres, des graphismes à la musique. Nous sommes bien dans un mouvement marchand. J'ajouterai que ce triomphe de la logique marchande se traduit encore par une étonnante expansion de la propriété intellectuelle au-delà de ses terres traditionnelles. Certains droits, comme le droit sui generis offert aux producteurs de bases de données que j'évoquais tout à l'heure, n'ont d'ailleurs d'autre but affiché que d'assurer la défense de l'investissement. Je vous lirai un article, et soyez rassurés, ce sera le seul que je lirai, l'article L431.1 de notre Code de la propriété intellectuelle, directement issu d'une directive européenne de 1996. Il est limpide, il n'appelle guère commentaire, du moins quand c'est son esprit, je ne parle pas des difficultés pratiques. Le producteur d'une base de données, dit-il, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Il est vrai que cette dernière construction que je viens d'évoquer est européenne, mais en réalité, c'est la planète tout entière qui est saisie par la frénésie marchande. Il faut nous tourner vers la mondialisation qui frappe ici aussi. Spectre de la mondialisation, les nouvelles technologies sont partout nouvelles et suscitent les mêmes défis. Il n'est donc pas étonnant qu'en dépit de traditions juridiques différentes, très souvent, nous ayons des réponses convergentes. Le droit d'auteur français, le copyright américain, le copyright canadien, le droit d'auteur allemand ne donnent pas des réponses bien différentes s'agissant, par exemple, de la protection du logiciel. Parfois, il est vrai aussi qu'on a vu une sorte de diktat imposer la règle universelle. Il faut savoir qu'en 1984, les États-Unis ont décidé de protéger les chips, les puces. Ils ont alors adopté une loi proprement américaine, enjoignant aux autres pays de la planète, s'ils voulaient voir leurs ressortissants protégés chez eux, d'adopter non seulement des règles protectrices, mais des règles conçues sur le modèle américain, le Congrès se réservant le droit de donner sa bénédiction ou non à la loi allemande, française ou japonaise qui serait prise sur ces bases. C'est quand même quelque chose, de mon point de vue, d'assez extravagant. Les accords de Marrakech de décembre 1993, derniers accords du GATT et prolégomène de ce qu'allait devenir l'Organisation mondiale du commerce, significativement dénommé d'ailleurs accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et d'ailleurs, tous touchent au commerce. Ces accords procèdent pour une bonne part de la même démarche. Les États-Unis en furent les initiateurs, ils y distillèrent leur philosophie, je n'ai pas le temps ici de donner des illustrations concrètes, mais c'est facile à faire, obligeant de facto la planète à se plier à la loi de la propriété intellectuelle, alors qu'à mon avis, sa pertinence pour tous les pays du globe aurait au moins mérité une interrogation. Et leurs options, comme celles que j'évoquais tout à l'heure, consistant à déclarer le programme d'ordinateur œuvre littéraire, sont devenues des options quasi universelles. Mais s'agissant de mondialisation, le plus remarquable est encore certainement dans le bouleversement radical qu'emportent les réseaux et l'Internet. La circulation des œuvres, de l'information, des œuvres informationnelles, y est ici sans frontières, alors que les législations restent nationales. Quand la numérisation fait que la copie peut se faire sans difficulté et surtout à même qualité de l'original. Cette même numérisation permet ici une dissémination totale qui prive de beaucoup de pertinence l'opposition traditionnellement faite entre le droit de reproduction fixation sur un support et le droit de représentation, communication au public, tout est communication, tout est partout communication. Et cela oblige, et a déjà obligé d'ailleurs à revoir des notions reçues, et c'est ainsi que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans un traité de décembre 1996, a été conduite à redéfinir ce droit de communication qui appartient à l'auteur afin de répondre aux spécificités de l'Internet. Mais plus radicalement, cela signifie que le droit d'auteur traditionnel se révèle malhabile à saisir la réalité du net et surtout à le faire avec légitimité. Et cela doublement. D'abord par rapport à une certaine philosophie libertaire du savoir, fortement reliée à l'Internet des origines. L'Internet d'avant l'Internet. Ensuite, par rapport au fait que rien ne justifie que la vérité s'exprime plus à Paris qu'à Ottawa ou à Tokyo. Sans doute, il ne faut pas non plus exagérer la difficulté. C'est médiatique, ce n'est pas toujours exact. quand une contrefaçon d'œuvre française est faite, réalisée en France par un Français qui numérise indûment une œuvre et la met sur les réseaux, il n'y a aucun problème juridique majeur. C'est une contrefaçon sanctionnable et facilement sanctionnable. Nous en avons des exemples. On pourrait songer à des affaires concernant, par exemple, des poèmes de Queneau. Peu importe qu'il s'agisse de réseaux. Mais quand agissement et œuvre se perdent dans cet univers qu'on dit virtuel, les choses sont moins simples. Songez à ces autres questions et à la difficulté quand même analogue qui se sont présentées. Quand j'évoque évidemment ces sites sur lesquels on pouvait trouver des objets nazis, quand un juge français a tout simplement prétendu, ou prétend, puisque c'est d'actualité, faire respecter la loi française. Je veux dire que là, il y a une difficulté majeure. Mais il ne faut pas être faussement naïf dans l'attente, peut-être pour le troisième ou quatrième millénaire, de la loi universelle qui régirait tout pour le bien de tous dans le meilleur des mondes évidemment possible. Si une loi a vocation à s'imposer, il faut bien avoir conscience que c'est la loi américaine, puisque mondialisation rime avec américanisation. Quand d'ailleurs le copyright est célébré pour son réalisme, il ne faut pas y voir autre chose. Un des traits majeurs du copyright par rapport au droit d'auteur est de protéger l'investissement. Il est bien dans cette logique marchande que j'évoquais tout à l'heure, cette logique qui n'est autre aussi que celle de la mondialisation. On ne s'étonnera donc pas d'une exacerbation des antagonismes, mon quatrième point. La propriété intellectuelle, bouleversée par les nouvelles technologies, est effectivement le lieu de tous les antagonismes. Autrement pensée que naguère, elle est omniprésente. Il est difficile de ne pas s'y heurter. Nous assistons à une véritable explosion des péages, des droits de passage à travers les créations juridiques les plus variées. Une multiplication en quelque sorte des bastilles qui sont quelquefois assiégées, deux mouvements que je voudrais souligner devant vous. Pour le premier point, j'aurais envie d'intituler celui-ci « Des bastilles au pays du libéralisme » ou quand le libéralisme découvre les charmes du féodalisme. Cela mérite sans doute un mot d'explication, mais vous allez voir, l'idée est extrêmement simple. Il n'y a pas de véritable propriété intellectuelle en dehors de situations d'économie libérale. Il n'y a pas de propriété intellectuelle s'il n'y a pas de marché. Car depuis le XVIIIe, nos propriétés intellectuelles sont l'occasion, le moyen pour le titulaire d'un droit de se réserver un marché. À défaut de marché, pas de réservation qui ait de sens. On peut parler de brevet en Chine populaire, c'est un mot. Ça n'a pas la réalité des propriétés telles que nous la connaissons dans nos pays. Mais à partir du moment où le parcours est semé d'embûches et de péages, comme je le disais à l'instant, que reste-t-il du modèle libéral ? Or, aujourd'hui, les droits se multiplient. Les droits dits voisins, comme le sont les droits des artistes-interprètes, qui participent à la création, mais sans se voir reconnaître la qualité d'auteur, sont de plus en plus reconnus à l'échelle de la planète. 1985 pour la France, du moins si je retiens la loi, 1992 pour l'Europe communautaire, qui sont autant d'occasions d'interdit et de paiement pour qui veut obtenir la levée de l'interdit. Et ce n'est pas toujours au bénéfice du créateur, car l'artiste-interprète, de mon point de vue, est un créateur. Mais on retrouve là aussi l'investisseur. Vont bénéficier de ces droits les producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, c'est le jargon juridique, les entreprises de communication audiovisuelle, tous très présents sur le net. On retrouve encore l'investisseur avec ce producteur de base des données que j'évoquais tout à l'heure. Cela signifie que ce producteur pourra s'opposer, là encore j'utilise le mot juridique, pourra s'opposer à l'extraction du contenu de sa base. Mais si la base réunit des œuvres, cela signifie que celui qui voudra l'exploiter devra obtenir l'accord de l'auteur de ses œuvres, l'accord de l'investisseur quant au contenu, et peut-être l'accord de celui qui aurait un droit d'auteur sur la base globalement considérée. S'il y a des photographes parmi vous, ils comprennent bien ce que je veux dire quand je parle d'embûches et de péages. Et quand le législateur ne s'en mêle pas, c'est le juge qui prend le relais. C'est ainsi que depuis une vingtaine d'années, on voit sanctionner des pratiques dites de parasitisme, définies comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin d'en tirer profit. On verra, pour rester dans les nouvelles technologies, condamner quelqu'un qui reprend des travaux d'analyse informatique menés par un autre. Mais cela peut conduire très loin. J'aime souvent citer un arrêt de la Cour de Paris, tout à fait exemplaire à cet égard, qui, dans une affaire où un slogan avait été repris, dans un premier temps dit « le slogan est banal, il n'y a donc pas de protection au titre du droit d'auteur, il ne peut pas y avoir contrefaçon ». Et dans un second temps, condamne en disant « oui, mais vous avez parasité la première entreprise ». Je crois que l'image est assez parlante. Ce sont encore les prérogatives qui se multiplient au sein de droits qui existent par ailleurs. Vous savez que l'auteur doit normalement tolérer la copie privée, mais il n'est plus tenu de le faire lorsque l'œuvre protégée est un logiciel ou une base de données. Et certains plaident pour la disparition radicale de l'exception dans l'univers numérique. Ce sont enfin les revendications qui se multiplient. Témoin l'âpre débat sur le pré-public qui a défrayé la chronique ces mois derniers. Mais pour rester dans le simple univers des nouvelles technologies, une sorte de consensus s'était fait pour dire que les langages de programmation n'étaient pas protégeables, car pour programmer, il faut bien passer par un langage. Mais il y a des voix aujourd'hui pour s'élever, faisant observer qu'il y a une création, et peut-être aussi un investissement. Il y a des voix pour s'élever, pour dire que peut-être faudrait-il reconsidérer les choses et accepter une protection des langages, avec ce que cela implique évidemment, là encore, du point de vue économique, derrière. Au fond, on pourrait dire qu'à la protection par le droit d'auteur dans l'univers dit réel des circuits de randonnée, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les circuits de randonnée ont été protégés par le droit d'auteur, répond la sollicitation de ce même droit d'auteur dans l'univers dit virtuel, la sollicitation de ce droit pour protéger les cheminements hypertextes. Alors, de sentier en cheminement, je me demande si ce n'est pas le parcours du combattant qu'il faut évoquer. Et pour rester dans un registre un peu militaire, puisque je viens d'évoquer les Bastilles, notons qu'à l'occasion, ces Bastilles sont assiégées. Le droit d'auteur et ses droits apparentés ne sont pas en effet tout puissants. L'Internet est par définition un lieu fragile. La copie est facile, le piratage tout autant. Les majors en matière de musique tiennent là-dessus des discours alarmistes. Il est vrai que la technique qui fragilise le droit peut venir le renforcer. Par exemple, par des procédés de marquage, de tatouage des œuvres qui permettront de suivre l'œuvre à travers son utilisation. Mais il faut se rendre compte que cela n'est pas sans danger. Ce sont des mécanismes indiscrets, tout à fait remarquables pour violer la vie privée. Qui plus est, si l'on songe à d'autres techniques qui ont pour finalité d'empêcher la reproduction en ligne, la question peut se poser de savoir si un individu est en droit de s'opposer à cela quand le législateur a permis cet accès. Disons les choses plus simplement. Si par exemple, on admet que la copie privée puisse être faite sans qu'il y ait de changement de la règle. Ai-je le droit comme individu de revenir sur cette liberté que le législateur a conférée à tout un chacun? La critique peut se faire plus radicale même, et le principe du pouvoir que représentent ces bastilles que j'évoque être contesté. Y a-t-il toujours des auteurs, s'interrogent certains, dans un univers où l'interactivité fait que finalement chacun construit avec l'œuvre de l'autre? Et s'il n'y a pas d'auteur, doit-il y avoir des droits d'auteur? Il me semble que c'est un très beau sujet de causerie, mais enfin, pour qui s'intéresse un peu à la sémiologie, il n'est pas difficile de faire valoir que toute œuvre, nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies pour cela, est inlassablement réécrite par ceux qui la reçoivent. Mais auteur ou non, auteur réinventé peut-être, y a-t-il toujours une légitimité à ces monopoles, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, quand derrière l'œuvre se cache l'information et peut-être aussi le savoir? Certains discours à cet égard sont clairs, cohérents, qui mettent en avant l'idée d'un patrimoine commun de l'humanité et refusent de voir accaparer les connaissances. S'agissant des questions que j'évoque, cela renvoie aux bases de données, aux produits multimédia pédagogiques, aux systèmes experts. Mais cela renvoie aussi, je sors du droit d'auteur un instant pour revenir au brevet, à toute la question de la brevetabilité du génome. Certaines pratiques sont claires aussi et coupent court à toute difficulté, comme celle des promoteurs des logiciels dits libres qui ne révoquent pas le droit d'auteur, mais se servent du droit d'auteur d'une manière en quelque sorte subversive pour réaliser un partage de l'information et de l'exploitation. Au point que certains ont dit qu'on n'était plus, jouant sur les mots, dans un registre de copyright, mais de copyleft. Mais le propos et les revendications ne sont pas toujours exempts d'ambiguïté. Il est tentant, évidemment, pour qui ne veut rémunérer ni les auteurs, ni les autres créateurs, ni les investisseurs concurrents, de mettre en avant de grands principes de liberté, tout simplement pour échapper à tout paiement. Il faut considérer avec prudence à qui profite la construction, car il serait malvenu de remplacer un dogmatisme par un autre. En revanche, je dirais, au risque tout à fait certain d'être minoritaire parmi les spécialistes, que je crois que le tribunal de grande instance de Paris s'est avancé dans la bonne direction quand, en février 1999, il a dit qu'il fallait reconnaître un droit du public à l'information susceptible de justifier la représentation de l'œuvre d'un artiste à l'occasion d'un journal télévisé tendant à illustrer de manière appropriée un reportage sur un événement culturel. Certains ont vu là la pire des choses. Il faut quand même savoir que nos voisins allemands ou plus éloignés scandinaves considère que c'est un élément du débat qu'il faut prendre en considération. Et plus l'œuvre se rapprochera de l'information, plus il me paraît nécessaire de concevoir en contrepoint à un droit sur l'information, un droit légitime aussi à l'information. Ce qui me conduit, au terme de cette conférence, à l'interrogation dont j'avais fait le sous-titre de celle-ci, à la recherche de nouveaux paradigmes. À la vérité, je crois que nous sommes au moment où il faut trouver d'autres références, où certainement un nouveau paradigme va devoir se substituer aux anciens. L'observation sur l'information n'est qu'un exemple topique parmi d'autres. Jusqu'à présent, nos propriétés intellectuelles en général, les droits d'auteur et droits de cette famille, ont essentiellement été conçus sur un pouvoir d'interdire reconnu au titulaire des droits qui peut monnayer les autorisations qu'il juge bon de donner. Ajoutez à cela, pour le droit d'auteur et les droits des artistes interprètes, uniquement cela, dans les systèmes juridiques continentaux, un droit moral qui, entre autres choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, interdit de porter atteinte à l'œuvre ou à l'interprétation. Mais quand, comme nous venons de le voir, ce pouvoir d'interdire peut être mal assuré. Quand, aux côtés du grand opéra, figure désormais non seulement le boulon ou le panier à salade, qui de longue date ont été protégés au titre du droit d'auteur, mais aussi le logiciel ou la page web, qui manifestement sont d'une autre nature. Quand il faut affronter un espace sans frontières où les points de vue les plus opposés se rencontrent, est-il raisonnable de se crisper sur un dogme, fût-il vécu comme tout dogme qui se respecte, comme l'expression de la vérité? Pour moi, il me semble que ce qui importe, c'est moins le cheminement que le résultat. Il s'agit moins de se demander comment on doit faire, mais ce que l'on veut faire. Or, ce qui me paraît essentiel, c'est d'abord que le créateur, auteur, artiste-interprète, mais là j'élargis les choses, également inventeur ou concepteur de marque, pourquoi pas, soit reconnu comme tel, ce qui est assez facile à mettre en place. D'ailleurs, en matière cinématographique, les génériques vont bien au-delà de ce qu'exige le code de la propriété intellectuelle. L'usage le veut ainsi. Il faut ensuite que ces créateurs, mais aussi tous ceux qui sont associés à la création, et donc les investisseurs, trouvent profit à la création. Cela peut passer par la reconnaissance de ce pouvoir d'interdire monnayable dont je parlais à l'instant, mais pourquoi ne pourrait-il pas s'agir de formules de redevance si l'objet en cause, et je songe en particulier à l'information, est jugé devoir être largement disséminé pour le bien de tous, ou d'autres mécanismes qu'il resterait à imaginer? Reste bien sûr, s'agissant du droit d'auteur et des artistes-interprètes, le respect dû à l'œuvre. Alors que les choses soient claires, j'en suis le premier défenseur. Je préfère, et de loin, la solution française qui interdit de colorier un film contre la volonté du réalisateur à la solution américaine qui permet cette colorisation ou ce coloriage. Que les choses soient nettes. Simplement, je veux quand même rappeler que si nous pouvons admirer les Stanze di Raphaël, c'est parce que le pape Jules II a fait détruire des peintures de Piero della Francesca ou d'Andrea del Castagno, que nous ne verrons jamais, bien sûr. Je veux dire simplement par là qu'il faut quand même conserver un peu de mesure et qu'il faut que notre position, puisque les Français sont à la pointe de la défense du droit moral, soit crédible. Et de ce point de vue, je ne vous cache pas qu'entre le Saint-François d'Assise de Messiaen, le boulon et le logiciel, j'ai une difficulté à croire que le droit moral soit un et indivisible. J'ajouterai pour finir, et revenons alors à une vue d'ensemble de la propriété intellectuelle, que nous ne sommes certainement qu'aux prémices d'une révolution qui nous obligera bon gré mal gré à revoir nos schémas de pensée. Il faut avoir conscience que demain nous serons confrontés à des hologrammes, physiquement si le terme peut être utilisé, mêlés à notre univers, à des ordinateurs quantiques, à des puces moléculaires, à des œuvres inscrites dans le vivant. Nous ne pourrons pas, en face de cela, continuer à raisonner dans la tranquillité suivant les schémas reçus. En présence, par exemple, d'une puce moléculaire, qui ne serait pas autre chose qu'un brin d'ADN, mais synthétique, comment imaginer de continuer à raisonner dans nos cadres reçus, même bricolés, puisque j'ai déjà employé ce terme? Droit des brevets, parce qu'il s'agit de technique? Droit d'auteur, parce que cela ressemble à du logiciel? Droit des topographies, parce qu'il s'agit de puces? Droit du vivant, œuvre, information, machine? Tout cela n'a pas de sens. Au moins, un des mérites du droit de la création est qu'il oblige à être créatif et qu'il y aura toujours, parce que c'est avéré depuis le néolithique, de nouvelles technologies pour bousculer les vieilles nouvelles technologies. Je vous remercie.